Mondial Sport sur RFI. Cédric de Oliveira, Antoine Grenier.
Bonsoir tout le monde, c'est parti pour Mondial Sport avec un programme très chargé du foot évidemment, avec notamment on ira à Londres pour voir comment Pierre-Emerick Aubameyang s'intègre à Arsenal, et puis à 3 jours du très attendu Real Madrid PSG en Ligue des Champions, comment se sont préparés les deux clubs. Et bien vous entendrez un reportage notamment de Pierre Chaperon, notre correspondant. Le foot également avec le début du feuilleton des Coupes Africaines. Bonsoir Antoine Grenier.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Le tour préliminaire des Coupes africaines qui vient de s'achever avec ce soir la grosse performance de l'Entente Sétif, vainqueur de la Ligue des Champions en 2014 et qui frappe fort ce soir. On donnera les résultats de cette Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération bien entendu, où pour leur première participation, les Sénégalais de Mbour Petite Côte n'ont pas démérité face aux Marocains de Berkane. Pas de défaite en revanche pour l'Africa Sport d'Abidjan, mais pas de raison de s'enflammer non plus. Une actualité africaine dédiée au football puisqu'on entendra également Wahbi Khazri, le Tunisien de Rennes à moins de 6 mois de la Coupe du Monde, qu'il espère vivre avec les Aigles de Carthage. Enfin, on reviendra sur la vraie fausse naturalisation de Fousseni Koulibaly, l'ivoirien de l'Espérance de Tunis.
Et on ira aussi à Pyeongchang, en Corée du Sud, pour vous parler notamment de la première médaille française dans ces Jeux Olympiques d'hiver. Et puis, nouvelle désillusion du 15 de France en Écosse, Mondial Sport. C'est parti. Alors, large page de foot africain pour commencer, les terrains qui vibraient ce week-end sur le continent à l'occasion du tour préliminaire aller des Coupes de clubs. Antoine Grenier donc, en Ligue des Champions, l'Entente Sétif a frappé très fort d'entrée.
Et disqualifié de la phase de groupe il y a 2 ans après des incidents intervenus dans les tribunes de leur stade, les Algériens faisaient leur retour en Ligue des Champions. Leur victime du soir, les Centrafricains de l'Olympique Réal de Bangui, battus 6-0. Et pourtant, l'affaire était loin d'être pliée à la mi-temps, Safir Jalal.
Les visiteurs ont joué de malchance puisque leur gardien titulaire, Baouito Levant, n'a pu être aligné suite à une blessure à l'entraînement la veille du match. Ce sera donc le jeune Kouinda qui sera chargé de garder les buts du Real et il s'inclinera très vite suite à un pénalty accordé par l'arbitre sénégalais Douda Gueye. On jouait la 12e minute quand Nesser, l'arrière sétifien, est fauché dans la surface de réparation du Real. C'est Hadouche qui se chargera de la transformation. En cette première mi-temps, les Sétifiens vont cumuler les occasions ratées. À la reprise, les protégés de Benchira sont plus appliqués. 58e minute, Djanit, centre de la droite, Boussif de la tête, transmet à Hadouche qui, du plat du pied, inscrit le second but. 2 minutes plus tard, c'est le buteur qui devient passeur et Djanit reprend du pied gauche pour le 3-0. 76e minute, Ben Ayed s'échappe à gauche et centre sur Hadouche qui réalise le triplé. Rebaï inscrit le 5e but à la 79e minute et Djanit, dans les toutes dernières secondes suite à un slalom, clôt l'addition. Safir Jalal, Alger, RFI.
Les Sétifiens qui vengent un peu leurs compatriotes du Mouloudia d'Alger, battus, petite surprise, par l'Auto d'Oyo, 2-0. Les Congolais qui frappent donc fort, eux aussi, pour leur première participation à la Ligue des Champions.
Une première participation également pour deux formations nigérianes et pas de défaite pour leur premier pas.
Plateau United, formation de Jos, affrontait l'Eding Sport de la Lekki, l'équipe camerounaise, dans un choc entre novices. Les Nigérians à domicile ont mieux négocié le virage avec un succès 3-0. Quant aux Mountains of Fire and Miracles, plus simplement nommé MFM Football Club, c'est mieux, ils sont allés chercher le nul un partout sur la pelouse du Real de Bamako. Les Nigérians avaient ouvert le score au quart d'heure de jeu avant de concéder contre leur camp l'égalisation 2 minutes plus tard. Voilà qui fait les affaires de Moussa Keïta, l'entraîneur bamakois, persuadé que l'adversaire était plus que prenable au micro de Mahamadou Kaloga.
En plein mi-temps, on a subi l'adversaire. Alors que c'est nous qui devions imposer notre jeu. J'ai vu en seconde mi-temps, le jeu a changé. Maintenant, l'équipe nigérienne, je les respecte pour eux, mais ils ne m'ont pas convaincu. Nous, on perd en potentiel. La victoire, c'est ceux là-bas. Comme ils ont fait un souci. Parce que j'ai vu leur point fort et leur point faible. En tout cas, je vous jure, nous ne sommes pas encore éliminés. Tout est jouable au Nigeria là-bas.
Moussa Keïta bien décidé à faire respecter la logique au match retour donc.
La logique justement eh bien, n'a pas été respectée pour les équipes soudanaises dans ce tour préliminaire.
Non, après la défaite d'El Merreir, largement dominée par une équipe botswanaise, c'était hier. C'est l'Al Hilal Omdurman qui s'est incliné ce soir 1-0 face aux Libériens du SCRFC. La SEC Abidjan de son côté n'a pu faire mieux qu'un nul un partout sur la pelouse des Béninois, des Buffles du Borgou. Une contre-performance qui n'a pas plu à Amani Yao César, l'entraîneur des Mimos.
On méritait de gagner, on ne s'est pas montré incisif dans les 20 derniers mètres. C'est qu'il y a sûr, on a notre destin en main et dans tous les cas, nous allons nous qualifier à Abidjan parce que nous avons les moyens. Au niveau de la possession du ball, au niveau des occasions nettes, on a été nettement supérieur.
Pardon. Amani Yao César, l'entraîneur des Mimos, son homologue Moutari Idrissou sortait lui frustré d'un match que son équipe aurait même dû gagner.
On est passé à côté du match. Et ce qui s'est passé, c'est la peur au ventre de mes joueurs, surtout en première mi-temps. On a laissé le ballon à l'adversaire, on était derrière, on n'arrivait pas à faire des mouvements, on demandait pas le ballon. Et ça, c'est pas notre jeu. Je les ai pas retrouvés. Bon, en deuxième mi-temps, je les ai motivés, on est revenu, on a pris le ballon en possession, on a marqué un but. On pouvait marquer un deuxième s'il n'y avait pas cette égalisation sur l'erreur de main du gardien. On va chercher les moyens pour aller les contrer là-bas.
Moutari Idrissou, l'entraîneur des Buffles du Borgou, au micro de Félix Soundé Pépéripé.
Et parmi les autres résultats, Antoine, l'ASV Club de Kinshasa, elle, n'a pas grand-chose à craindre avant le match retour.
Les Congolais, plus que tranquilles face aux Mighty Wanderers, équipe du Malawi. Victoire 4-0 des hommes de Florent Ibengué, avec au passage un triplé de Muloko. À noter également le large succès des Angolais du Primero de Agosto, 3-0 sur les Zimbabwe. Babouin de Platinum. Une rencontre de ce tour préliminaire ne s'est pas déroulée ce soir. Saint-Georges contre Wau Salam. Les Éthiopiens n'ont jamais vu leurs adversaires sud-soudanais, lesquels ne se sont pas rendus à Addis Abeba pour le match. Ils n'étaient pas dans l'avion qui devait les amener en Éthiopie.
Allez, on parle de la Coupe de la Confédération maintenant. Pas de forfait de dernière minute et ce sera très ouvert dans trois rencontres notamment, dont celle qui attend l'Africa Sport d'Abidjan.
Les joueurs de Yacouba Camara n'ont pas pu faire mieux qu'un nul un partout à domicile face au FC Nouadhibou. Gonazo avait pourtant ouvert la marque pour les Verts et Rouges, mais peu avant l'heure de jeu, les Mauritaniens sont revenus au score. Camara, ex-international ivoirien, ex-sociétaire de l'Africa, reconnaît que son équipe a manqué de lucidité devant les buts adverses.
Je savais que dans ce match-là, on allait se créer beaucoup d'occasions. Ça, je le savais. Et pendant toutes mes séances, on a travaillé devant les poteaux, devant les buts. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les garçons n'ont pas accepté de prendre des risques, de tirer au but, ou bien de jouer une fois sur un retrait. Il y avait toujours eu un geste de trop, un contrôle qu'il ne fallait pas. On n'a pas autre alternative que de chercher à marquer des buts, à marquer pour se qualifier en Mauritanie.
Yacouba Camara, l'entraîneur de l'Africa Sport. En face, le Camerounais Maureen Doya reste persuadé que son équipe est passée tout près de l'exploit au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, on écoutera Maureen Doya une autre fois, l'entraîneur du FC Nouadhibou, qui était tout comme Yacouba Camara au micro d'Emmanuel Koffi sur les autres terrains.
Oui, deux autres victoires, c'est ça Antoine, 4-0.
Exactement, sur les autres terrains, il y a eu ces victoires, donc celle des Tanzaniens de Simba d'abord sur les Djiboutiens de gendarmerie et les Rwandais de l'APR face aux Seychellois dans ce réunion. Là, c'est à peu près plié, contrairement à la Santé Kotoko, le club gagné qui s'est certes imposé sur la plus petite des marges, 1-0 face au Kara Brazzaville. Les matchs retour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, ce sera dans 10 jours, les 20 et 21 février, pour décider des formations qui iront en 16e de finale. A priori, les Marocains de Berkane sont pas trop mal partis puisqu'ils se sont imposés ce soir 2-1 sur les Sénégalais de Bourg-Petite-Côte. On entendra certainement un peu plus tard le résumé de cette rencontre par Anas Yassine.
Eh bien, merci Antoine Grenier pour tous ces résultats. On vous donnera sans doute le résultat des derniers matchs en fin d'émission. Mission. Voilà pour le foot africain. On joue aussi ce week-end, bien évidemment, en Europe et notamment en Angleterre. 27e journée de Premier League avec notamment un duel, c'était hier, entre Tottenham et Arsenal, les deux rivaux du nord de Londres. Une victoire des Spurs 1-0 grâce à l'inévitable Harry Kane. En face, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas marqué, mais l'intégration du Gabonais se poursuit chez les Gunners. C'était son deuxième match. Arrivé cet hiver de Dortmund pour 63 millions d'euros, tout le monde au club est persuadé qu'il sera le nouveau buteur dont Arsenal a bien besoin. À Londres, le reportage d'Olivier Sclavo.
Ça n'aurait pas pu mieux commencer. Un buteur star chez les Gunners et qui marque pour son premier match. Pierre-Emerick Aubameyang a débarqué du Borussia Dortmund le 31 janvier dernier pour plus de 60 millions d'euros et il a inscrit le quatrième but d'Arsenal lors d'une victoire 5-1 contre Everton le 3 février. Sevré de stars depuis les arrivées de Mesut Ozil et d'Alexis Sanchez en 2013 et en 2014, les supporters des Rouges et Blancs ont vu débarquer un attaquant convoité par les meilleurs clubs du monde et avec une personnalité bien à lui. Une aura qui leur plaît, comme à Dionte, jeune fan rencontré sur les terrains de l'Est de la capitale.
Avoir Aubameyang qui apporte ce genre d'aura, c'est tellement excitant et ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est en dehors aussi. Jusqu'à la voiture qu'Aubameyang conduit, c'est tellement audacieux. Vous ne voyez pas vraiment d'autres joueurs de première ligue dans une voiture comme celle-là. Il a une Lamborghini argentée, je crois, c'est juste dingue. Et sa manière de s'habiller aussi. Le jour de sa présentation par le club, la manière dont il était habillé, c'était waouh, genre il est vraiment là.
Et le club d'Arsenal en profite. Un tour à la boutique sous le stade de l'Emirates Stadium. Les maillots des deux recrues hivernales, Aubameyang et Henrik Mkhitaryan, sont bien en vue à l'entrée, sur des mannequins formant une haie d'honneur vers les caisses. Andrew est un touriste canadien. On le rencontre alors qu'il vient de sortir de la boutique avec un maillot au nom du Gabonais dans son sac.
J'ai acheté un maillot d'Aubameyang pour l'un de mes amis au pays. Oui, quand on est arrivé à Londres, on lui a demandé ce qu'il voulait comme maillot et lui, il voulait celui d'Aubameyang. C'est tout ce qu'il voulait, un maillot d'Aubameyang. Le vendeur nous a dit qu'il avait floqué plus de 400 maillots sur les deux dernières semaines.
Le succès en magasin est acquis, mais sur le terrain, son équipe va vite vouloir le voir faire aussi bien qu'au Borussia. Il a marqué 141 buts en 213 matchs pour le club allemand et Arsène Wenger attend beaucoup de son nouveau canonnier, alors qu'Arsenal est en manque de buts et d'élan en ce moment.
Le football, c'est marquer des buts et vous pouvez dire qu'on n'est pas assez fort en défense, mais regardez les chiffres et comparez-les avec les autres équipes du top 6, on ne marque pas assez de buts.
Samedi, dans le derby du nord de Londres contre Tottenham, il a subi son premier vrai test et une défaite 1-0 contre les Spurs. Un match dans lequel il n'a pas vraiment pesé et avec la concurrence d'Alexandre Lacazette à qui il a piqué la place de titulaire et les attentes des fans et de l'équipe, il n'y a plus qu'à espérer qu'il retrouve rapidement le chemin défilé pour s'assurer le succès à Arsenal. Olivier Sclavo à Londres pour RFI.
Et la prochaine occasion de marquer pour Pierre-Emerick Aubameyang, ce sera dimanche prochain. Ce sera face au leader Manchester City. Voilà un choc entre Arsenal et Manchester City pour la prochaine journée. City qui compte à présent 16 points d'avance sur son rival United, battu 1-0 à Newcastle. Du coup, Liverpool en profite. Liverpool sur le podium qui revient à 2 points de United. Les Reds vainqueurs à Southampton 2-0 grâce à un nouveau but de l'Égyptien Mohamed Salah. Les Reds donc sont revenus à 2 points de United. A noter également le doublé du Béninois Steve Mounier lors de la victoire de Huddersfield face à Bournemouth 4-1. C'était son 5e et 6e but de la saison. On part en Espagne à présent avec un petit coup d'arrêt pour le Barça, tenu en échec par Getafe 0-0. Les Blaugrana qui comptent tout de même 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid et 17 sur le Real qui s'est lui imposé 5-2 face à la Real Sociedad. Tout n'a pas été parfait, mais ça pourrait bien donner confiance au Merengue à 3 jours d'affronter le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les doubles tenants du titre qui n'ont plus enchaîné 2 victoires d'affilée toutes compétitions confondues depuis la mi-décembre. Sauf que la Ligue des Champions reste une compétition importante dans la capitale espagnole. Ça fait même partie de l'ADN du club. Alors forcément, on est plutôt optimiste avant ce grand rendez-vous, comme a pu le constater notre correspondant en Espagne, Pierre Chaperon.
Comme si les supporters du Real ne pensaient qu'à ça. Comme si la Liga passait au second plan. Cette victoire contre la Real Sociedad dans ce froid hivernal pourrait paraître anecdotique, tant le rendez-vous face à Paris est dans toutes les têtes. Et comme une évidence, mercredi, le Real va gagner, comme nous l'explique Anna, cette mère de famille qui arbore fièrement le maillot du club.
Le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Si on gagne la Ligue des Champions, la saison sera au moins réussie. Et la Champions, c'est la Champions. C'est une compétition où Madrid ne perd jamais.
Pour Luis, socio du club merengue depuis deux décennies, le Real l'emportera contre le PSG. C'est la logique de l'histoire.
Non, la peur au Real, il n'y en a jamais. Et encore plus en Coupe d'Europe. Quand on voit l'histoire de la compétition, Madrid est le roi d'Europe. Pourquoi on aurait peur? Non, je pense que la peur et la panique, ce sont les Parisiens qui l'ont.
Un sentiment partagé par Ravi Hernández, journaliste à la Cadena Ser, la Ligue des Champions représente beaucoup pour le Real.
C'est dans ses gènes, dans son ADN. Le Real en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Dans cette compétition, les joueurs redoublent d'efforts, de travail. C'est une équipe plus solidaire. Mais si vous me demandez mon opinion, je crois que Madrid est favori. Madrid va montrer autre chose. On va avoir un autre Ramos, un autre Casemiro. On va voir la meilleure version du Real. Benzema, Bale, Cristiano, on va voir le meilleur de ces joueurs. Si le Real marque un but dès le premier quart d'heure, je crois que ça sera une très mauvaise soirée pour le Paris Saint-Germain.
Il faut dire que face à la Real Sociedad, le Real Madrid a montré un de ses meilleurs visages. Cristiano Ronaldo y a même inscrit son premier triplé de la saison en championnat. De l'envie, de l'impact, des points positifs que n'a pas manqué de souligner l'entraîneur du club, Zinedine Zidane.
Le positif, en fait, c'est la première mi-temps. Ce qu'on a fait depuis notre début de match, c'est-à-dire rentrer dans le match, marquer, ça facilite les choses. Et puis, on a fait 45 minutes d'un très haut niveau. Il y a eu du jeu, il y a eu des buts, il y a eu beaucoup d'abnégation. Après, il y a eu du moins bien et il va falloir le corriger. C'est ce qu'on essaye et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire mercredi. Et comme on joue à la maison, il va falloir faire attention.
Des points négatifs qui seront à corriger face à l'attaque du PSG. Il faudra être attentif pendant 90 minutes. Le défenseur du Real, Dani Carvajal, suspendu pour ce rendez-vous, donne quand même des conseils à ses remplaçants, Nacho ou le jeune Marocain, Achraf.
C'est le facteur à travailler jusqu'à mercredi. Parce qu'au final, chaque but encaissé est très très important dans cette compétition. Donc nous allons essayer de maintenir cette attitude durant les 90 minutes. Que ce soit Nacho ou Achraf qui doivent jouer mercredi. Bon, il est difficile de défendre face à un joueur comme Neymar. Il n'y a pas de recette pour l'arrêter. Au final, il peut passer à côté de son match et nous, non. Et mercredi, peut-être que Paris aura un jour sans.
Jouer à son meilleur niveau contre une équipe de Paris très respectée de ce côté-ci des Pyrénées. Les enjeux sont multiples. Ce Real Madrid de Paris Saint-Germain pourrait être un passage de témoin entre le double champion d'Europe en titre et le jeune loup parisien en quête de reconnaissance continentale. Ce double affrontement décidera peut-être de la fin de saison des deux équipes et de possibles changements de fond dans les deux effectifs. À Madrid, en tout cas, on ne s'y trompe pas. La Liga et la Coupe du Roi sont perdues. Reste le rendez-vous continental. La sono du stade ne s'y est d'ailleurs pas trompée en privilégiant à la fin du match la musique de la Ligue des Champions à celle de l'hymne du club. Une première qui veut dire beaucoup. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et Pierre Chaperon qui commentera ce match, ce sera donc mercredi à partir de 20h temps universel. Antoine Grenier, on vous retrouve pour parler de ce match de Coupe de la Confédération entre Berkane et Petite-Côte, les Sénégalais d'Hombourg.
Des victoires des Marocains qui ont finalement eu du mal à s'imposer 2-1 face aux Sénégalais à Anas Yacine.
La Renaissance de Berkane a gagné la première manche, mais ne s'est pas vraiment mise à l'abri en vue du match retour. Le deuxième représentant du Maroc dans cette Coupe de la CAF s'est retrouvé mené au score. Mbour Petite-Côte a souffert pendant les 10 premières minutes, mais a réussi à trouver la faille à 4 minutes de la fin de la première période sur balle arrêtée, un coup franc excentré et une tête croisée de Bobasso, étrangement seul. Le tournant est intervenu à la 64e minute. L'arbitre camerounais Aliou Néan, l'un des meilleurs du continent, très critiqué par les visiteurs, a accordé un pénalty en faveur des locaux et a expulsé dans la foulée pour cumul d'avertissement le capitaine de la formation sénégalaise. Ayoub Kaabi, meilleur buteur du dernier Chan, a égalisé une Panenka. Et à la 71e minute, l'attaquant togolais Labaco Joe, avec un sang-froid dont la surface de réparation a placé la balle hors de portée du gardien sénégalais, est très en vue lors de cette rencontre. 2-1, rien n'est encore joué, tout reste possible avant le match retour.
Anas Yassine, voilà, vous savez tout sur ces coupes africaines. Nous, on se retrouve dans 3 minutes après la pause. Bon, eh bien, petit souci technique, mais on est toujours dans Mondial Sport, début de la deuxième partie. On vous parlait du Real Madrid juste avant la pause, le Real qui va mieux. Eh bien, maintenant, on va s'intéresser à son adversaire mercredi en Ligue des Champions, à savoir le Paris Saint-Germain. Bonsoir, Olivier Pron.
Bonsoir, Cédric de Oliveira. Bonsoir à tous.
Et Olivier, le PSG s'est lui aussi préparé à ce grand rendez-vous par une victoire à Toulouse.
1-0 sur un but de l'inévitable Neymar en seconde période. 19 buts, 11 passes décisives pour le Brésilien. Capricieux, mais indispensable évidemment au Paris Saint-Germain. Et ce sera encore le cas mercredi à Bernabeu. Sans un grand Neymar, le PSG ne pourra pas être à la hauteur, ça c'est sûr. Donc hier, on ne peut pas dire qu'on ait vu le meilleur match des Parisiens. Il est évident qu'il faudra montrer bien plus pour espérer faire un coup face au Real. Mais Paris a assuré, sans faire de blessés, c'était bien là le plus important. L'essentiel, nous dit même Adrien Rabiot.
On voulait prendre 3 points et arriver serein au match de mercredi. Donc c'est chose faite. Après, on aurait pu aggraver le score et peut-être pousser un peu plus. Mais comme je disais, c'est l'effet, on n'a pas de blessés. C'est surtout ça. Et puis on a pris les 3 points, donc c'est le plus important. On aurait pu faire mieux, c'est sûr. Mais voilà, on continue sur notre bonne lancée et ça nous permet de vraiment arriver au match de mercredi avec le plein de confiance.
Oui, depuis le 5 décembre et la défaite au Bayern Munich, le PSG a disputé 15 matchs, toutes compétitions confondues, Cédric, pour 14 victoires, 51 buts marqués et une défaite à Lyon, 2-1.
Oui, une défaite qui peut faire penser que contre les gros ou supposés comme tels, eh bien ça coince cette saison.
Oui, si l'on met de côté la faute professionnelle, le manque d'implication face à Strasbourg début décembre, autre défaite cette saison, la première d'ailleurs, c'était la première. Les autres revers à Munich et à Lyon, ont été concédés face à des formations dont le niveau est supérieur à la Ligue 1 ou en tout cas au top de l'élite française. Dans la perspective d'affronter le Real Madrid, double tenant de cette Ligue des Champions, ce n'est pas très rassurant, d'autant qu'il y a de sérieuses interrogations sur le niveau du défenseur, Daniel Alves, franchement mauvais, on peut le dire, ces dernières semaines, voire ces 3 derniers mois. Il va falloir aussi composer avec l'absence de la sentinelle la plus expérimentée de l'effectif, Thiago Motta, certes vieillissant mais qui rend beaucoup de services. Il sera remplacé peut-être par Lassana Diarra à court de compétition et cela s'est vu hier, ou par Lo Celso qui manque lui d'expérience dans ce type de match. En tout cas, alors que Paris s'apprête comme le Real à disputer la rencontre la plus importante de la saison jusqu'ici, Adrien Rabiot, toujours lui, estime que ce sont les Madrilènes qui ont le plus à perdre et qui sont donc les favoris.
La pression est plus sur le Real, je pense. Ils ont l'expérience et c'est les tenants du titre, donc nous on va arriver bien sûr avec beaucoup d'envie mais non, on n'a pas plus de pression que ça. On sait que c'est un match important parce que c'est important pour nous, c'est important pour le club, mais je pense que la pression est beaucoup plus sur Madrid que sur nous.
Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le croire sur le fait que Paris n'ait pas la pression et les gentils Adrien Rabiot, mais il nous prendrait presque pour des perdreaux de l'année. Favoris ou pas, les Parisiens rejoindront Madrid mardi en fin de journée après un dernier entraînement à Paris. Le match est à suivre bien sûr mercredi 19h45, temps universel, en direct et en intégralité sur RFI. Avec qui?
Avec Eric Mamrut et donc Pierre Chaperon, et commentaire dont on a entendu le reportage tout à l'heure. Merci beaucoup Olivier Pron et bonne soirée à vous. On va parler quand même du championnat de France, un mot puisque le PSG donc est large leader de ce championnat de France. Il compte 12 points d'avance sur son plus proche, poursuivant Monaco, large vainqueur à Angers 4-0 hier. Ce dimanche, Strasbourg a battu 3-2-1. Nantes et Lille ont fait match nul, 2 buts partout. Et en ce moment, Lyon est mené sur sa pelouse par Rennes 1-0, alors qu'il reste une petite vingtaine de minutes à jouer. Un but de Wabi Kazri qui a donc débloqué son compteur en 2018. Antoine Grenier, vous êtes de retour dans le studio. studio, on va en parler avec vous. Un but qui prouve que l'adaptation du milieu de terrain tunisien à Rennes est plutôt réussie.
Oui, effectivement, arrivé au mercato d'été, prêté par Sunderland, Kasri en est à 7 buts en Ligue 1, décrit carrément par son entraîneur Sabri Lamouchi comme le Cavani breton.
Ah oui, carrément. Oui.
Carrément. En tout cas, le Tunisien participe activement à la 8e place des Rennais au classement du championnat, de quoi lui faire entrevoir une place dans les 23 de la Tunisie à la Coupe du Monde. Ce serait sa première, alors il est un petit peu impatient.
C'est un honneur de participer à ce genre d'événement avec son pays, et c'est vrai qu'on l'a dans un coin de notre tête, et on y pense tous, je pense, et on s'entraîne, on travaille tous les jours pour ce genre d'événement, de performance, de compétition, et c'est vrai que ce sera un honneur de d'y être, et je me donne les moyens tous les jours, et notamment en compétition pour être performant et pour participer à cette Coupe du Monde, et voilà. Après, j'espère qu'on sera capable d'aller le plus loin possible et de ne pas faire que figurer, quoi.
Évidemment, vous avez beaucoup d'échéances avant cette Coupe du Monde avec le Stade Rennais, mais le 18 juin, ce sera le match Tunisie-Angleterre. Est-ce que vous avez particulièrement coché cette date?
Non, pas particulièrement. C'est vrai que les trois matchs sont importants, mais c'est vrai que voilà, pour moi, qui viens d'Angleterre, c'est quelque chose qui est intéressant et qui m'excite beaucoup, parce que voilà, j'aurai à cœur de montrer ce que je sais faire, de quoi je suis capable, et c'est vrai que c'est bien de rencontrer des grosses nations comme ça.
Alors avec Rennes, vous avez dit que sans tous vos collègues, vous ne serez rien, ils vous mettent dans les meilleures conditions, on va dire. Est-ce que en équipe de Tunisie, on peut attendre la même chose, ou c'est plus compliqué?
Non, en Tunisie aussi, c'est vrai que c'est important de respecter ses partenaires et d'avoir le respect de ses partenaires, et c'est vrai que voilà, en sélection, il y a une super ambiance, une bonne entente, chacun est là pour le pays, pour le maillot, et c'est important que chacun se mette ses passes dans les meilleures conditions, et si on veut aller loin, c'est ce qu'il faut pour aller au plus haut niveau, quoi.
La Tunisie n'a remporté qu'un seul match en phase finale de la Coupe du Monde, c'était en 78 en Argentine, et donc cette victoire, c'était face au Mexique. Le premier objectif en Russie, c'est quoi finalement? C'est de gagner le premier match depuis 40 ans en phase finale de Coupe du Monde, ou c'est essayer de voir un peu plus, même si vous êtes avec l'Angleterre et la Belgique?
Non, bon, c'est que ce sera compliqué, même le Panama, c'est... Il faut sélectionner personne. Si ces équipes sont dans les 32 meilleures nations du monde, c'est qu'elles méritent et qu'elles ont des qualités. On sait que ce ne sera pas facile, mais on a une bonne génération, une bonne équipe, et je pense qu'on est capable de belles choses. Donc j'espère qu'on sera capable de créer cette surprise-là et d'au moins sortir de se qualifier de cette poule, quoi.
Après la mésaventure à la CAN 2015, tout de suite après, vous étiez très énervé. L'élimination face à la Guinée équatoriale, où je crois que vous aviez même dit que l'équipe nationale, c'était un peu entre parenthèses. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Non, bah après, c'est des matchs comme ça où on se rend un peu énervé. Après, j'ai jamais douté une seconde de ne pas porter le maillot de mon équipe nationale. C'est un match où je pense qu'on aurait dû se qualifier, on méritait de se qualifier. Il y a eu ce qu'il y a eu, et c'est vrai que voilà, des fois, les paroles ont dépassé la pensée, et c'est ce qui s'est passé après ce match-là, mais je suis très content de faire partie de cette équipe-là. C'est vrai qu'il y a une bonne génération, un bon staff, un bon groupe, et personnellement, quand je pars en sélection, c'est que des moments de bonheur, donc voilà, je me régale, et je suis très content de faire partie de cette sélection.
Pour finir, dernière question, donc la fin de saison idéale avec Rennes et la Tunisie, ce serait quoi pour vous?
Finir le mieux possible avec Rennes, pourquoi pas une place européenne, en espérant que Paris remporte les deux coupes, et avec la Tunisie, le plus possible à la Coupe du Monde, au moins passer le premier tour, ça serait déjà un exploit. Et ensuite, voilà, le ballon il est rond, joueur contre joueur, même s'il y a des favoris, essayer de chambouler un peu la hiérarchie et de donner le maximum surtout, et de faire plaisir au peuple tunisien.
Wahbi Khazri, le milieu de terrain tunisien de Rennes, joint par David Kalfa.
Alors Wahbi Khazri, c'est sûr désormais qu'il n'aura pas Fousseini Koulibaly comme coéquipier chez les Aigles de Carthage. L'affaire a passionné la Tunisie cette semaine, Antoine. L'Ivoirien ne deviendra finalement pas tunisien.
Une affaire close par le président de la fédération tunisienne, celui-ci assurant que Koulibaly ne serait pas naturalisé, surtout pour des raisons techniques. Nader Daoued ne voyait en effet pas ce que le milieu de terrain pourrait apporter à la sélection tunisienne. Le joueur s'est exprimé sur cette affaire au micro de notre correspondant Farouk Katou. Retour sur ce rendez-vous raté.
Nabil Mahlouli a été l'instigateur de cette tentative de naturalisation de Fousseini Koulibaly. Il voulait le faire participer au prochain mondial. Après le stage de Doha auquel Koulibaly avait pris part, et à la surprise générale, le ministère de la Justice a refusé le dossier présenté par le joueur à la demande de la Fédération tunisienne de football. Explication de Koulibaly.
Je ne savais rien. Comme c'est des personnes qui m'ont dit voilà, et
qu'ils ont dit à la radio que tu veux être naturalisé, un truc comme ça. Et après, j'ai eu un coup de fil de la fédération qui m'ont convoqué là-bas. Voilà, ils m'ont dit il y a des dossiers que je devais déposer. J'ai déposé, donc je pense que c'est eux qui sont venus vers moi. C'est pas moi, je suis parti vers eux. Donc.
Ce rejet a-t-il influé sur le moral de Coulibaly ? Pas du tout, nous répond-il.
Comme je le dis moi, dès le début, voilà, quand j'ai attendu la nouvelle, voilà, on m'expliquait un peu qu'il y avait pas mal d'histoires, voilà, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord et ça avait créé des polémiques. Donc, j'ai mis dans ma tête que si c'est bon, c'est ça, si c'est pas bon aussi, voilà, tranquille quoi.
Maintenant qu'il reste totalement ivoirien, pense-t-il encore à la sélection de son pays ?
Je pensais que ça allait se faire, bon, ça s'est pas fait ici, donc pourquoi pas si mon pays a toujours besoin de moi, je suis toujours disponible. Donc voilà, je suis là pour mon pays, je travaille si vraiment, vraiment ils veulent de moi. Voilà, grâce à eux de venir vers moi et de faire le premier pas, quoi. Donc moi je suis prêt à tout, quoi.
Malgré cette affaire, Coulibaly continue à être attaché à son club et à la Tunisie, un pays qu'il qualifie d'accueillant. Farouk Kato, Tunis et Réfi.
Coulibaly non retenu, la Tunisie réfléchit malgré tout à la naturalisation de deux joueurs, deux franco-tunisiens évoluant en France, le milieu de terrain de Montpellier, Elias Chkiri, et le milieu offensif de Troyes, Saïf Edine Haoui.
Eh bien merci Antoine Grenier, on vous donnera d'ailleurs des nouvelles de ces deux joueurs sur cette naturalisation éventuelle. Allez, 21h43 en temps universel, 6h43 à Pyeongchang en Corée du Sud où se déroulent actuellement les Jeux Olympiques d'hiver. Le jour se lève à peine en Corée du Sud, mais on va pourtant rejoindre notre envoyé spécial sur l'événement, Christophe Diremzian. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Cédric.
Alors ça y est, la France tient sa première médaille, elle est en or et elle est allée autour du cou d'une jeune femme de 19 ans, la skieuse de Beauce, Perrine Lafont.
Oui, c'est un visage que les habitués des JO d'hiver avaient découvert à Sochi, une adolescente de 15 ans qui avait déjà surpris l'époque en se hissant en finale avant de subir un peu la pression de l'événement. 4 ans plus tard, c'est la consécration enfin pour cette Pyrénéenne au potentiel déjà constaté l'an passé aux Mondiaux en Espagne avec un titre en bosse parallèle. Sa discipline, on rappelle ce que c'est, une descente sur une piste bosselée rythmée par des figures acrobatiques. Le tout est noté, il y a des tours à passer et la finale se joue en 3 manches. Perrine Lafont avait réussi le meilleur score des qualifications et cette fois, elle était plus solide dans ses runs, comme on dit, que la tenante du titre, la Canadienne Justine Dufour-Lapointe, battue pour 0,09 de points. Le bronze est revenu à la Kazakh Yulia Galicheva et en redescendant du podium de la cérémonie, non pas des médailles, mais des fleurs, car la médaille ne sera remise que demain, et bien Perrine Lafont avait bien sûr un petit peu de mal à réaliser.
C'était juste fou de me dire que c'est moi la nouvelle championne olympique, quoi. Beaucoup de tension et surtout énormément de fatigue. Ça fait un paquet de jours que je m'entraîne, que j'ai pas eu de repos, donc les 3 derniers runs ont été très durs. Ouais, c'est juste magique. C'était fou la neige qui tombait et ça y est, je devenais championne olympique. Je me mettais pas la pression avec, c'était juste skier, me faire plaisir et voilà, quand je fais ça, ça marche.
Perrine Lafont, désormais l'une des plus jeunes championnes olympiques françaises de l'histoire. Mais en matière de précocité, un Américain a fait encore mieux ce dimanche. Redmond Gerard, médaille d'or du snowboard slopestyle à seulement 17 ans.
Et lui aussi visait le titre. Martin Fourcade faisait son entrée en lice sur le biathlon avec le sprint. Alors c'est la seule épreuve pour laquelle il n'avait pas encore de médaille olympique. Eh bien ça ne sera pas encore pour cette fois, Christophe.
Eh non, et lui-même avait du mal à digérer cette triste 8e place seulement qu'il doit à une première séance de tir couché calamiteuse, 3 erreurs, donc 3 tours de pénalité qui vous privent en général de podium, même quand la seconde série de tirs debout est parfaite. Martin Fourcade termine à 22 secondes du vainqueur, l'Allemand Arne Pfeiffer, et n'a évidemment pas caché sa déception.
J'avais de très grosses attentes, on parle souvent des attentes qui pèsent sur moi, mais c'était mes attentes qui pesaient plus lourd et... J'avais coché ce sprint olympique parce que c'était une course qui me convenait. Parce que j'avais envie de bien démarrer cette quinzaine pour l'équipe de France olympique, pour moi, pour le staff. Et c'est une très grosse déception parce que j'avais tout pour faire aujourd'hui. Le staff m'avait donné les bonnes planches. J'étais bien sur les skis. J'étais concentré, j'étais pas stressé. Je comprends pas. On aimerait, hein, quand on est sportif, pouvoir tout analyser, pouvoir dire j'ai loupé ici. Oui, j'ai loupé ici, c'était sur le coucher, mais je comprends pas pourquoi, j'ai besoin de débriefer avec mon coach parce que je maîtrise ce tir. Je l'ai montré tout le début de saison, c'est mon pire tir de l'année sur un tir couché. Enfin, il y avait des conditions qui étaient pas faciles aujourd'hui, j'ai pas réussi à jouer avec. C'est pas du tout une excuse que je me trouve. Hein. On fait un sport extérieur, il faut savoir jouer avec les éléments et aujourd'hui j'ai déçu, je me suis déçu.
franc et direct. Martin Fourcade qui va chercher à se refaire ce lundi avec la poursuite où il défend son titre. Le départ de cette épreuve se fait athlète après athlète avec les écarts enregistrés au classement final du sprint.
Alors Christophe, de nouvelles récompenses également ont été distribuées au ski de fond avec le skiathlon masculin et les Norvégiens ont été intraitables.
Et c'est simple, tout le podium est pour eux. Et l'or est allé à Simen Ekstad Krüger, pourtant mal parti dans cette course puisqu'il avait chuté peu de temps après le départ, mais qui a bien pris sa chance dans le dernier tour de piste, un peu moins de 4 km de l'arrivée. Il a attaqué, sauf que les poursuivants se sont un peu trop regardés et dans le lot, il y avait un Français, Maurice Magnifica. Il a pensé que Krüger ne tiendrait pas, mais il a été plus costaud que prévu. Magnifica finit cinquième avec une pointe de frustration de ne pas avoir davantage tenté sa chance, mais pas trop de regrets non plus à l'arrivée.
C'est bien, première course des Jeux, le skiathlon, moi j'ai déjà fait des podiums dessus, c'était pas, certes c'est pas l'épreuve sur laquelle voilà, où j'avais le plus gros objectif, mais bon j'avais quelque chose à jouer quand même, donc on a loupé le coche, tous les leaders on s'est fait tout savoir, hein. Ce Krüger, bon, il était pas inconnu, donc il a réussi à partir, c'était vraiment fort de sa part, et à un tour de la fin il a fait tout seul avec ce vent, là c'était compliqué comme course, donc... Voilà, après, c'est la première course des Jeux, malgré tout, il faut se satisfaire à ça, il y a les sensations, il y avait du bon, du moins bon, mais malgré tout, ça s'est rentré dans la course, plus ça allait, plus je me sentais mieux, donc, mais j'avoue, ouais, on s'est fait surprendre, et puis voilà, mais malgré tout, je suis content d'avoir pu quand même essayer de rattraper sur la fin, rentrer sur les deux Norvégiens qui jouaient, du coup, là. La deuxième et la troisième, donc ça lance bien les Jeux malgré tout.
Et le rendez-vous prioritaire que se donne Maurice Magnifica, c'est celui de vendredi, jour du 15 km libre, son épreuve fétiche, celle qui lui vaut d'être actuellement l'actuel leader du classement général dans la catégorie distance en Coupe du Monde.
Et Christophe, on va s'éloigner un petit peu des vedettes de cette journée pour donner un coup de projecteur à la représentante d'une petite nation qui est présente à ces Jeux Olympiques de Pyeongchang. Il s'agit du Togo.
Oui, ça paraît toujours antinomique de mettre côte à côte le nom d'un pays africain et l'expression sport d'hiver. Et pourtant, on le rappelle, 8 pays du continent ont des athlètes à Pyeongchang. Et dans le cas du Togo, c'est même une revenante. Mathilde Amivi Petitjean, 23 ans, de père français et de mère togolaise, née à Kpalimé, mais partie en France à l'âge de 3 ans. Elle a grandi au Grand Bornand, en Haute-Savoie. Et pour la deuxième fois, elle va s'aligner en ski de fond sur deux épreuves, le sprint classique et le 10 km libre, une course où elle avait terminé 68e à Sochi en 2014. Pas vraiment un très bon souvenir sportif pour cette jeune femme qui ne veut surtout pas passer pour la concurrente exotique. Elle s'est d'ailleurs donné les moyens, avec une aide financière du CIO de 25 000 $, de progresser durant ces 4 dernières années en changeant complètement de cadre de vie et en s'installant au Canada peu de temps après cette fameuse course de Sochi, un petit peu dure à vivre.
Ça a été un peu compliqué parce que du coup j'étais pas vraiment préparée à ça, je m'étais pas préparée toute la saison pour cet événement là, c'était juste une course de plus. J'étais encore junior à ce moment là et je suis arrivée dans la cour des grands et ça a été difficile et c'est pas du tout une course de prédilection pour moi, 10 km, je fais plutôt du sprint, donc cette année je suis vraiment contente, j'ai obtenu les points pour faire le sprint, donc c'est surtout sur le sprint classique que je vais mettre toutes mes chances pour courir et le 10 ça va vraiment être pour me faire plaisir et pour profiter d'une course et donner tout ce que j'ai.
Mentalement c'était compliqué aussi à gérer pendant la compétition puis un petit peu après aussi.
Oui totalement, enfin je sais que j'ai vraiment eu du mal de passer, j'étais personne en fait, à un espèce de symbole un peu pour le Togo, du coup ouais, après les JO ça a été vraiment compliqué pour moi de me remettre dans une vie un peu normale parce que il y a tout ce flou qui arrive de partout et on te dit ok, il faut que tu représentes un pays à toi tout seul et c'était vraiment gros, trop intense je dirais, vraiment j'ai eu du mal mais maintenant ça va, cette année je suis préparée, il m'a fallu 4 ans pour accepter ça et me préparer psychologiquement et là je suis prête à porter tout ça sur mes épaules.
Il y a eu un changement de vie quand même, vous êtes partie au Canada pour vous entraîner. Comment ça s'est passé concrètement et qu'est-ce qui a présidé à ce choix ?
Ben, c'est ça, après Sochi j'ai eu un peu un burn-out donc j'avais besoin de me refaire un peu et en France c'était devenu un peu compliqué parce que je faisais plus partie de l'équipe de France donc j'avais envie de totalement changer, donc un peu par hasard je suis tombée sur une vidéo du Centre National Pierre Harvey à Québec et ils avaient l'air super gentils et accueillants et enfin c'est vraiment une grosse équipe donc j'ai décidé d'envoyer un mail et le chef de l'équipe a accepté et quelques mois après j'étais là-bas et ça a été une nouvelle vie qui a commencé. parce que ce centre-là m'a permis de me qualifier encore une fois pour les JO, parce qu'ils m'ont suivi pendant 3 longues années. Et pendant ces 3 années-là, j'ai vraiment progressé et ils m'ont traité comme une athlète de chez eux alors que je suis pas du tout de là-bas. Et ouais, je leur dois beaucoup.
Qu'est-ce que vous avez trouvé concrètement sur place en termes de structure d'entraînement, de facilité?
Le centre, ils ont une piste de ski à roulette, ils ont une salle de muscu, ils ont un staff médical, technique. Et grâce à ça, maintenant, les Canadiens s'occupent de moi sur les courses internationales. Parce que mon coach est le coach de l'équipe en chef, donc c'est vraiment devenu facile pour moi. Ils m'ont intégré partout et j'ai plus besoin de penser à comment je vais faire pour faire mes skis ou quoi. Il y a quelqu'un qui est là pour moi, donc le Canada est là pour moi. Mais c'est pas que ça aussi, enfin, j'ai trouvé des coéquipiers d'entraînement. C'est ce qui me manquait vraiment, de parce que s'entraîner tout seul, c'est vraiment pas cool. Et du coup, ouais, c'est même devenu une seconde famille pour moi. Enfin, c'est plus que juste un staff technique.
En quoi vous estimez avoir progressé sur ces 2-3 dernières années?
J'ai pris de la puissance, il me manquait un peu de la puissance. Il y a des points techniques comme ma double poussée que j'ai améliorée aussi. Je suis capable de faire des bonnes qualifs. Enfin, petit à petit, je me rapproche des meilleurs mondiales. Il m'en manque encore un peu, mais je suis capable de jouer ma place et de leur montrer que moi aussi je suis là, qu'il faut penser à moi, quoi.
Ce sprint classique, le 13 février, l'objectif principal, c'est de passer les tours, d'être parmi les 30 premières, c'est ça?
C'est ça, voilà, tout à fait, ouais. C'est de passer les qualifs et après d'aller le plus loin possible. Mais rentrer dans le top 30, ouais, ce serait beau.
Quart de finale, demi-finale, on peut toujours rêver?
Oui, on peut toujours rêver. Hein. Bon, après, voilà, je fais pas non plus partie des meilleurs, même en Coupe du Monde, c'est déjà compliqué, mais c'est les mêmes athlètes que je retrouve là, mais voilà, à chaque fois, c'est de passer les qualifs et puis d'aller le plus loin qu'on peut.
En fonction des résultats ici à Pyeongchang, vous envisagez déjà un peu votre avenir?
Disons que Pyeongchang, ça va pas changer grand chose. Moi, j'aimerais ça m'établir à long terme pour faire une carrière en Coupe du Monde, sur le circuit Coupe du Monde, toute une saison. Donc j'ai plutôt ça en tête. Pyeongchang, disons que c'est plus comme un bonus pour moi. C'est une compétition de plus, la plus grosse de la saison, mais c'est une compétition de plus. Donc même si ça se passe pas bien ici, je vais finir ma saison et je verrai à la fin de cette saison.
Eh bien voilà, c'était donc Mathilde Petitjean. Alors les couche-tards vont pouvoir se régaler cette nuit, puisque Christophe Diremzian va donc nous faire vivre en direct Super G sur RFI. Ce sera aux alentours de 1h temps universel. En tout cas, merci à vous Christophe Diremzian et bonne journée. Alors c'est bientôt la fin de cette émission, mais il nous reste un peu de temps pour parler de rugby et de la deuxième journée du tournoi des 6 nations, et une nouvelle désillusion pour la France qui s'est inclinée 32-26 face à l'Écosse. C'était sous les yeux d'Éric Chorin qui était à Murrayfield cet après-midi. Bonsoir Éric. Bonsoir Éric.
Bonsoir Cédric.
Alors 8 jours après cette défaite sur le fil face à l'Irlande au Stade de France, les Bleus ont malheureusement de nouveau échoué face aux Écossais.
Oui, nouvelle déconvenue pour le 15 de France, d'autant plus douloureuse que les tricolores ont fait la course en tête pendant plus d'une heure avant de se mettre à la faute en deuxième période. Pas du tout le même scénario que face à l'Irlande, même si l'issue est la même, le sélectionneur Jacques Brunel.
Ce soir, le dernier quart d'heure, disons, nous est très défavorable. On a perdu un petit peu le contrôle de la partie. Quelque part, c'est un petit peu logique au vu des fautes que l'on a fait. Il y avait des points que l'on a donnés à l'adversaire. Eh bien, on a perdu la possession, on a perdu le contrôle et c'est eux qui ont été le plus entreprenants. Donc, ce n'est pas tout à fait la même défaite. Ce qui est sûr, c'est que c'est notre indiscipline qui a sans doute causé notre perte parce que ça leur a permis de mettre les pénalités, bien sûr, de se retrouver sans cesse dans notre camp et donc de se mettre à portée des sanctions que l'on a subies.
Car les Bleus menaient de 6 points à la pause après une première mi-temps où 4 essais ont été marqués.
4 essais dont 2 pour la France inscrits par le seul Teddy Thomas.
Oui, Teddy Thomas très inspiré sur son aile, chanceux également quand un rebond favorable a remis en jeu. Mais en face, les Écossais ont réagi à chaque fois, Maitland et Jones aplatissant 2 fois également. Et en deuxième période, sous la pression écossaise, les Bleus n'ont cessé de se mettre à la faute, offrant 6 pénalités toutes converties par le demi-mêlé et buteur de l'Écosse Greg Ledlow, 18 points qui font toute la différence et un Sébastien Vaamina passablement en colère devant tant d'indiscipline.
Un peu, oui, c'est vrai, parce que bon, on avait le match en main quand même. À la mi-temps, on était bien. Ça a été dit, marque 2 essais, mais derrière, quand même, on arrive à défendre correctement et essayer de garder le score en poche. Mais d'entrée, sur la deuxième mi-temps, ils ont attaqué très fort, quoi. Et pourtant, on se l'est dit au vestiaire que les 15-20 premières minutes de la deuxième mi-temps, il fallait être très vigilant et pas trop s'exposer, quoi, et discipline.
Il se l'était dit, hein, mais cela n'a pas suffi. Et à l'arrivée, c'est l'Écosse qui se relance dans le tournoi.
Et en revanche, la France, elle, enchaîne un 8e match sans victoire.
Et une 2e défaite dans un tournoi qu'il était difficile de plus mal commencer. C'est raté pour le rebond attendu, le 2e ligne, Arthur Ituria.
Il y aura forcément un rebond. Et voilà, c'est vrai qu'on l'attendait tous ce week-end avec les points qu'on avait à gommer contre l'Irlande. On avait dit qu'on s'appuierait sur une bonne défense, qu'on essaierait de plus garder le ballon en attaque. Voilà, on a un peu plus gardé le ballon en attaque. On a peut-être un peu moins bien défendu, fait le même nombre de fautes. Et voilà, on tombe sur une équipe avec un buteur très pragmatique, quoi. Dès qu'ils ont les points à prendre au pied, ils les prennent. Et voilà, c'est, je pense, un peu notre faute ce soir si on perd.
Et du coup, Arthur Ituria et les siens ne devront pas se rater dans 2 semaines au Vélodrome face à l'Italie. Sinon, c'est la cuillère de bois qui leur pend au nez et ça met la pression.
C'est un match qu'il faudra gagner comme les deux qu'on vient de faire. Hein. On fait match après match et là, c'est vrai qu'on a 2 défaites. Après, oui, il y a un contexte un peu de pression. Je ne sais pas à quoi c'est dû, si forcément un résultat, mais ça ne sert à rien de rester dans cette spirale-là. Je pense qu'il faut se tourner un peu vers le futur et ça serait bien de regagner pour gagner cette confiance déjà nous.
Retrouver la confiance et le vœu pieux d'Arthur Ituria et retrouver la victoire qui fuit le 15 de France depuis 331 jours, à défaut de mieux.
Eh bien, merci Eric Chorin et bon retour d'Édimbourg. Effectivement, la France qui va affronter l'Italie, ce sera dans 2 semaines, donc prochain rendez-vous de ce 15 de France. L'Irlande qui est en tête de ce tournoi destination sera opposée au Pays de Galles et puis l'Écosse affrontera, elle, l'Angleterre. Voilà, Mondial Sport, c'est terminé pour ce dimanche. Mes excuses pour quelques problèmes techniques à l'antenne. En tout cas, c'est fini pour nous. Prochain rendez-vous donc avec le sport, ce sera demain dans Radio Foot International. Rendez-vous avec Hugo Moissonnier, 16h10 temps universel. Nous on se retrouve la semaine prochaine, 21h10 temps universel dans Mondial Sport. Très bonne soirée à vous sur RFI.